7-9 de France Inter. Première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Bonjour Christiane Taubira.
Bonjour.
Ancienne garde des Sceaux, vous l'avez été pendant 4 ans sous François Hollande, y portant notamment une réforme de la justice et la loi sur le mariage pour tous. Vous revenez aujourd'hui avec ce livre, Baroque Sarabande, aux éditions Philippe Ray, consacré aux écrivains et aux artistes qui vous ont façonné, qui ont marqué vos combats. Également, on y croise Césaire, René Char, Bob Dylan ou encore Toni Morrison, mais aussi un petit peu de vous, Christiane Taubira, puisque vous y glissez certains souvenirs plus personnels. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Les livres dans votre vie, les romans, les poèmes, ils auront été plus importants que la politique, finalement.
Ils ont rendu la politique importante. Ils ont donné sens à la politique. Et en fait, c'est par la littérature que j'ai perçu une sensibilité en moi, au monde, et une sensibilité du monde sur ma vie et sur mes trajectoires possibles. Donc c'est grâce à la littérature, grâce à des auteurs, y compris des auteurs de fiction, que j'ai perçu la complexité du monde, que j'ai perçu très vite des injustices qui sont de vraies violences contre des gens de chair et de sang. J'ai compris ça très très vite et vraiment grâce à la littérature.
Cet amour des mots, cet amour des livres, Christiane Taubira, il tient aussi au fait que vous en avez été privée dans votre jeunesse. Vous racontez les punitions à l'école, à la maison, dès lors que vous prononciez un mot en créole.
Oui, parce que le créole le créole était une langue interdite, alors que c'est notre langue et que spontanément et pour se sentir bien, évidemment, on laisse monter sa propre langue. Mais les combats pour la promotion sociale et puis les combats pour l'aliénation, donc la promotion sociale, les souhaits, les vœux des familles, les combats pour l'aliénation, ce sont les autorités qui professe l'assimilation, tout cela avait coincé le créole, mais le créole, comme toutes les langues, est porteuse d'imaginaire. C'est une langue porteuse d'imaginaire. Le créole ouvre sur une culture, sur une connaissance de son propre territoire, une façon de nommer les paysages. Donc, c'est une frustration extrêmement forte.
Plus personne aujourd'hui, ou presque, dans la classe politique, Christiane Taubira, ne parle comme vous. Plus personne ne cite des poèmes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Plus personne n'en appelle aux grands auteurs lors des passages des toits, des textes à l'Assemblée. Vous êtes
une
femme politique à l'ancienne, comme on n'en fait plus, comme on n'en fera plus.
Je veux pas dire l'ancienne, parce que ces combats d'ancien monde, de nouveau monde, je crois que c'est totalement artificiel. Je pense qu'il y a parmi les jeunes élus, je suis sûre, je veux espérer, qu'il y a des personnes qui aiment la littérature, qui n'ont peut-être pas
encore surgi, qu'on n'a pas remarqué. Qui d'autre que vous, aujourd'hui, dans la classe politique, aime à ce point les mots, les lettres, les livres?
Je n'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que on se prive d'un bonheur immense, d'un bonheur abyssal de vivre avec les livres, de vivre dans les livres, de vivre grâce aux livres, de vivre par les livres, à travers les livres. On se prive de beaucoup de choses.
J'ai commencé à lire, je crois, ce sont les premiers mots de votre livre, pour échapper au bruit. Christiane Taubira, le bruit qui monte en ce moment en France, l'inquiétude, la colère, la contestation, vous l'entendez ou vous êtes dans vos livres toute la journée?
Quelle transition!
Oui, mais... j'ai essayé de faire ce que je pouvais.
L'effort est louable. Oui, il y a du bruit dans le pays parce qu'il y a des inquiétudes, il y a des angoisses, il y a des interrogations, il y a beaucoup de choses extrêmement légitimes parce qu'on a besoin de comprendre où on va, où on nous mène. Les gens ont le droit de s'interroger. Il s'agit de leur vie, de leur quotidien, il s'agit de leur emploi, il s'agit de leur protection, il s'agit de la justice sociale. Donc il est normal, je crois que c'est une marque de vitalité du pays. Je crois que c'est la preuve qu'il y a encore une forte énergie dans ce pays, qu'il y a aussi une forte identité au sens où les Français savent bien comment ils se sont construits. Ils se sont construits par des luttes sociales. Ce sont les luttes sociales qui ont amélioré les conditions de travail, la durée du travail, l'accès à l'éducation, donc l'école obligatoire, la solidarité avec la retraite, pour les retraites. Donc les gens savent que, en général, dans l'histoire de la France, les lois ont suivi les luttes sociales. Donc les luttes sociales sont extrêmement importantes.
Est-ce que la France va mieux aujourd'hui, Christiane Taubira, qu'elle ne l'allait il y a un an quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée?
Alors, comment mesure-t-on cela? Soit on prend des indicateurs économiques, soit on regarde l'ambiance, soit Moi, je n'ai pas un tempérament catastrophiste, hein, puis je n'ai pas une doctrine du catastrophisme. Donc, je pense que les gens sont bien, que les gens sont forts, que les gens ont confiance en eux, il n'y a pas une morosité pesante. Mais est-ce que les gens vont mieux? Est-ce que la pauvreté a reculé? Est-ce que l'exclusion est moindre? Est-ce que les gens sont plus confiants? Est-ce que les perspectives sont stimulantes? Il faut le mesurer. Subjectivement, lorsqu'un pays va mieux, de toute façon, il va mieux grâce aux gens. Hein. Il va rarement mieux. Surtout en un an, il va rarement mieux grâce au pouvoir. En un an, on mesure les résultats du pouvoir précédent.
Ah, ça c'est
général,
pour le quinquennat de François Hollande. Vous en avez marre de ce Hollande bashing depuis qu'il a quitté l'Élysée. Vous voulez réhabiliter son bilan, qui est un peu le vôtre aussi. Vous avez passé 4 ans avec lui.
Je n'ai pas le réhabilité. Je pense que de toute façon, le temps permet toujours de réajuster les choses. Je suis à la fois heureuse et fière d'avoir servi dans ce gouvernement, d'avoir pu agir. Je n'ai strictement aucun regret à ce propos. Je conserve mon estime et mon respect à l'ancien président de la République. Il a été extrêmement attentif aux Français, aux problèmes de la France. C'est une préoccupation permanente chez lui.
Et pourtant, vous l'avez quitté sur un désaccord profond. Vous ne vouliez pas de la déchéance de nationalité.
Absolument.
Vous avez quitté le gouvernement pour ça. Et François Hollande, aujourd'hui, dans son livre, dit « Finalement, j'aurais dû l'écouter un peu plus ».
Oui, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que moi, ça m'aurait permis de faire, de terminer la réforme de la justice des mineurs, par exemple. Mais surtout, ça aurait évité une tâche que la gauche va porter encore longtemps dans ce pays, même s'il a eu le bon sens et la sagesse de revenir sur cette décision, donc de mettre un terme dès que l'occasion s'est présentée pour lui. C'est vraiment dommage parce que ça a entaché aussi son quinquennat et on oublie des choses importantes qu'il a faites, on oublie aussi la façon dont il a été vraiment très très attentif à cette société, dont il a voulu l'apaiser, il a voulu vraiment rétablir de la justice sociale avec des pressions très fortes dont il n'a pas su parfois se dégager parce que les pressions sur les contraintes budgétaires,
Le lien s'est abîmé entre l'Église et l'État, disait récemment Emmanuel Macron. Au sujet, a-t-on cru comprendre des manifestations, de la manif pour tous? Est-ce que vous l'avez pris pour vous, cette phrase? Est-ce que c'est vous, Christiane Taubira, qui avez abîmé le lien entre les catholiques et l'État?
Alors, d'abord, moi, je ne suis pas nombriliste, donc je ne pense pas que chaque parole prononcée me concerne. Et lorsqu'une parole prononcée me concerne, je m'interroge moi-même, en toute honnêteté, parce que il est plus important pour moi de comprendre ce que je fais, de comprendre les choses, de comprendre l'état d'esprit des gens aussi, que de me sentir froissée. Donc, moi, je ne suis pas, et je ne pense pas être dans le viseur du président de la République. Ceci étant, je me souviens d'une déclaration déjà un peu de ce type pendant la campagne, quand l'actuel président de la République, M. Emmanuel Macron, avait déjà dit « il y a des personnes qu'on a froissées et qui, etc. » Bon, donc ça c'était déjà une erreur incontestablement et vous m'aviez offert l'opportunité. Je m'étais fâchée que vous m'offriez cette opportunité parce que j'étais venue à une émission culturelle.
C'était chez Léa
donc,
Salamé.
C'était
voilà.
Absolument.
Oui, vous étiez fâchée parce qu'on ne devait pas parler de politique et j'avais glissé
absolument.
Une question politique.
Absolument. Mais vous m'aviez effectivement à cette occasion offert l'opportunité de réagir. Je crois qu'il y avait là déjà un signe qui explique une erreur, à mon avis. Une erreur de fond. Parce que la question n'est pas de savoir si on froisse des gens ou pas. La question est de savoir quel est le droit et qu'est-ce qui est juste. Et est-ce que ce que nous avons était juste? Oui, c'était juste. Moi, en quoi j'aurais abîmé le lien entre l'État et les religions? D'abord parce que je ne représente pas l'État moi seule. Ensuite parce que nous sommes dans un État laïque et qu'un État laïque doit tenir à bonne distance les religions, quelles qu'elles soient. Enfin parce que lorsque nous modifions le code civil pour assurer l'égalité des droits entre des catégories de Français, l'opinion de l'Église reste une opinion religieuse, le clergé reste le pouvoir de l'Église, mais le clergé ne peut pas avoir d'influence sur l'organisation des droits et des devoirs. Que le clergé dise que nous, pour la religion, nous n'allons pas reconnaître ces mariages-là, c'est son autorité, c'est sa souveraineté.
Mais donc rien à réparer.
De réparer quoi? Le lien abîmé? D'abord, moi je ne comprends pas le lien entre l'Église et l'État. Nous sommes dans un État laïque qui reconnaît toutes les religions. Ça n'est pas un État qui professe l'athéisme. C'est un État qui professe la concorde, c'est-à-dire la possibilité de notre vie sociale, que nous soyons athées, que nous soyons agnostiques, que nous soyons religieux, catholiques, des trois religions monothéistes, catholiques, juifs ou musulmans, que nous relevions d'autres choses. Le Conseil d'État, par exemple, a reconnu les témoins de Jéhovah comme religion, ce qui fait que le culte, ce culte-là intervient dans nos institutions. Donc l'État organise les rapports entre l'État et l'Église, notamment par la propriété du patrimoine religieux et la prise en charge, organise les rapports entre l'État et l'Église et surtout au service des citoyens en obligeant l'État à assurer la liberté, le libre exercice des cultes, y compris lorsque le citoyen en est empêché. C'est pour ça qu'il y a des religieux dans les prisons, dans les casernes, dans les hôpitaux. Donc voilà, mais tout ça est encadré. Alors, pas de subjectivité dans les rapports entre l'État et les religions, et il n'y a pas de lien abîmé. Si la religion se trouve froissée, c'est son droit, mais il y a d'ailleurs beaucoup de croyants qui ne sont pas froissés par le fait qu'on reconnaisse l'égalité des droits pour les personnes homosexuelles et la même protection pour tous les enfants dans toutes les familles, qu'elles soient hétéroparentales, qu'elles soient monoparentales ou qu'elles soient homoparentales.
Christiane Taubira, invitée du Grand Entretien de France Inter, il est 8h32. Vos questions à l'ancienne garde des Sceaux dans un instant au standard de France Inter, mais d'abord les questions de Léa Salamé.
Vous citez beaucoup d'auteurs, Christiane Taubira, dans votre livre. Vous citez notamment Borges. « Je n'écris pas pour une petite élite dont je n'ai cure, ni pour cette entité platonique qu'on surnomme la masse. J'écris pour moi, pour mes amis, pour adoucir le cours du temps. » Et vous, vous écrivez pour qui, Christiane Taubira ?
J'écris pour parler aux gens. Et j'écris pour parler en priorité à la jeunesse, c'est-à-dire que lorsque j'écris, parce que je ne me situe pas parmi les grands écrivains qui ont des choses fondamentales, essentielles à dire, j'écris dans une relation d'abord d'amour, de tendresse, dans une démarche de plaisir et de joie. Et notamment ce livre-là est vraiment un livre de plaisir. C'est une déambulation dans la littérature qui est une source de bonheur absolument inépuisable.
En quoi lire la poésie et la littérature vous a fait du bien, vous a réconforté quand vous étiez ministre ? Je sais que vous lisiez la nuit, vous me l'avez dit.
Et je continue.
Et que quand vous étiez attaqué et parfois insulté, en quoi les mots avaient une vertu apaisante ?
Alors d'abord parce que la littérature, le fait de baigner depuis tant d'années dans la littérature procure une échelle des choses qui vous permet de percevoir ce qui est insignifiant. Des insultes peuvent être d'une grande violence, cela ne réduit pas leur insignifiance. Ensuite, ces insultes vous ramènent aussi à ce que la littérature vous a enseigné, à savoir que il y a des merveilles et des trésors partout dans le monde, qu'il y a des personnes extrêmement précieuses partout dans le monde, qu'il y a une égalité une égalité qui est profonde entre les êtres humains et que ceux qui n'ont pas compris ça et qui pensent à des hiérarchies, à une supériorité, qui mettent de l'énergie à exclure, à humilier,
Vous parlez de qui là ?
Aux gens qui m'attaquaient, parce que je réponds juste à votre question. La littérature vous permet de comprendre que ces gens-là sont juste insignifiants et qu'ils passent et qu'ils ne laisseront pas de traces. Donc vous ne perdez pas de temps sur ça et vous vous occupez davantage des gens qui laisseront des traces. Et ce sont des gens souvent anonymes, des gens mais qui ont un cœur immense comme l'océan.
Qu'est-ce que vous pensez de la langue d'Emmanuel Macron quand il parle latin, quand il utilise des expressions surannées, parfois quand il fait des très mauvaises liaisons qui font mal aux oreilles ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je n'ai pas jugé sa langue, simplement je suis... c'est bien que nous ayons un président de la République cultivé.
Oui, parce qu'on disait qu'il n'y en a pas. Il y a vous, il y a lui qui est lettré, il y a Jean-Luc Mélenchon également.
Oui. Et je crois qu'il y a des personnes, peut-être qui ne sont pas encore sur la scène ou pas repérées, mais qui sans doute aiment la lecture, parce que la lecture n'a pas pu déserter le milieu politique. Il est bien que le président de la République assume d'aimer lire, d'aimer des auteurs, d'avoir de cette de s'être préoccupé de philosophie. Je suis pas sûre que ça l'aide vraiment à comprendre la société pour l'instant. Je crois qu'il ne perçoit pas bien ce que sont les ressorts de la discorde dans une société et la nécessité de créer le cadre, en tout cas, de permettre que fonctionne le cadre dans lequel s'exprime cette discorde. Donc voilà, mais je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de faire du président de la République un point de fixation à partir duquel part ma pensée ou arrive ma pensée.
Une question sur le projet de loi asile-immigration. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, le projet de loi asile-immigration répond essentiellement à des préoccupations de politique intérieure, manifestement. Il n'embrasse pas la réalité de la circulation humaine. Il ne correspond pas à ce que disent les chiffres. Il y a quelques mois, c'était en octobre 2017, se tenait au Collège de France un colloque de très grande qualité sur migration, réfugiés et exil. Et Patrick Boucheron, qui concluait ce colloque, évoquait des chiffres donnés par Catherine Vitol de Wenden, qui est absolument d'une totale crédibilité sur ces sujets, qui rappelait qu'il y a 244 millions de personnes déplacées dans le monde, donc qui ne vivent pas chez elles, que sur ces 244 millions, il y a 100 millions de personnes qui sont des déplacés forcés. La moitié de ces gens-là vivent chez eux, mais ailleurs que chez eux, c'est-à-dire dans leur propre pays, sont des déplacés internes. Il y a 3 millions de personnes, de demandeurs d'asile dans les pays développés, mais ça paraît dérisoire, 3 millions dans l'ensemble des pays développés. Il y a 21 millions de personnes qui disposent du statut prévu par la Convention de Genève. Mmh. Et ces 21 millions de personnes sont pour la plus de la moitié reçues dans 8 pays. D'abord la Turquie. C'est un vrai sujet, ça. D'abord la Turquie. Depuis l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, la chute de demandes d'asile en Europe a baissé de 90%. Alors ça explique peut-être aussi qu'on s'accommode de certaines pratiques du dirigeant turc. Après, c'est après la Turquie, c'est le Pakistan. Après, c'est le Liban. Après, c'est l'Iran. Après, c'est la Jordanie.
D'accord, donc c'est pas la France, ça
que vous voulez
dire.
Ce sont 8 pays. Ce sont 8 pays dont le produit intérieur brut cumulé ne s'élève qu'à 2,5% du PIB mondial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser un projet de loi asile-immigration avec l'obsession de raccourcir les délais d'appel, de prolonger les délais de rétention, sans s'interroger sur l'état du monde, sur la place de l'Europe, de la France dans le monde, de l'Europe dans le monde, et sur la réalité, mais la réalité de ces flux, de ces circulations humaines.
Il vous a déçu, Emmanuel Macron, sur ce sujet ? Vous pensiez qu'il était le Macron candidat qui disait... Il faut regarder les étrangers, il faut leur parler. Est-ce que le Macron progressiste, est-ce que vous le retrouvez à la présidence ?
Alors d'abord, Monsieur Macron ne m'a pas déçu parce que je n'ai pas fait la campagne de Monsieur Macron au premier tour.
Enfin, vous auriez pu attendre.
Je l'ai fait peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas espéré. Alors Monsieur Macron, déjà lorsqu'il était au gouvernement sous la présidence de François Hollande, avait exprimé. Et je crois qu'il est sincère. Il exprime des choses parce que il a un rapport à la société, aux individus, qui est plutôt un rapport d'altérité. Il n'est pas perturbé par l'existence des autres et je crois qu'il n'est pas indifférent à la réalité ni des misères ni des situations de précarité ou de vulnérabilité. Mais il faut du courage politique. Il faut aussi assumer de dire que dans notre société, on crée de la cohésion. Dans notre société, nous sommes en capacité quand même à 66 millions de personnes à cesser de hurler parce que l'Europe nous demande d'accueillir 24 000 personnes. Il faut avoir le courage politique de dire ces choses-là, et ce sont des choses qui peuvent être entendues dans ce pays parce qu'il y a des Françaises et des Français qui le pensent profondément, qui prennent des risques à déranger leur quotidien pour dire oui à 66 millions de Français, 67 millions, nous pouvons accueillir 24 000 personnes.
Avant de partir au standard, Christiane Taubira, énormément de messages pour saluer votre présence ce matin sur France Inter. Je vous en lis un simplement, c'est José qui nous écrit sur Internet. Je voulais saluer cette grande dame qui fait honneur à la France. Quelle classe ! Point d'exclamation. Il y en a plein comme ça ce matin.
Merci,
au standard
José.
De France Inter.
Et
sur le site Internet, Jean nous appelle de Grenoble. Bonjour Jean. Bienvenue.
Oui, bonjour. Madame Taubira, je me fais un peu le porte-parole de mes filles dont vous êtes le modèle. Ce faisant, j'ai envie de porter une accusation à l'ancienne ministre de la Justice, extrêmement populaire que vous fûtes. Madame Taubira, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, le fait que la gauche soit un peu orpheline, le fait que la gauche soit dispersée et ne mobilise plus le pays, c'est un peu de votre faute parce que vous fûtes véritable dispositif qui reflétait la politique, les mesures de gauche, parce que quand on demandait, quand on disait aux gens, tiens, le gouvernement Hollande n'émène pas une politique de gauche, on entendait dire, mais non, il y a Taubira, regardez les mesures de Taubira. Pourquoi manquez-vous d'ambition personnelle? Pourquoi ne faites-vous pas exploser toutes ces lignes de gauche aujourd'hui qui ont du mal à rassembler le peuple de gauche pour pouvoir rassembler au-delà, Madame Taubira? Pourquoi vous manquez de courage? La France a besoin de vous.
Alors, merci monsieur, vous saluerez vos filles. ensuite, alors moi je comprends que vous m'accusez des péchés des autres et je comprends aussi que vous me demandez d'avoir du courage. Je ne manque pas de courage monsieur, vous me demandez d'avoir de l'ambition personnelle je crois plutôt que du courage. Voilà, je ne perçois pas la vie politique comme un lieu où on fait carrière. Je mène des combats, je continue à en mener et je ne me sens pas... Les accusations que vous avez portées, mais en même temps, je vois bien à la fin de votre propos les nuances qu'il faudrait y mettre. Oui, moi, je fais de la politique à visage découvert. J'ai choisi des idéaux de gauche, je les assume. Lorsque j'ai l'opportunité extraordinaire d'agir au nom du pouvoir, au nom de l'État, je le fais en fonction des idéaux que j'ai choisis. Et je pense que c'est à la fois de la loyauté vis-à-vis de moi-même, c'est de la loyauté vis-à-vis de celles et de ceux qui ont voté pour la gauche, c'est de la loyauté vis-à-vis aussi de ceux qui pensent autrement et qui ne s'attendent pas à ce que des personnes qui ont dit très clairement leurs convictions expliquent très précisément, très clairement ce que j'ai fait pendant toute mon action au pouvoir, très clairement, très précisément, à la fois la philosophie, la doctrine de l'action que je conduisais et les effets que j'en attendais pour la cohésion de la société, je ne crois pas que ce soit une faute. Ensuite, vouloir de l'ambition personnelle, non monsieur, voilà. Et puis vos accusations ne vont pas changer ma conviction profonde.
Donc ça venait visiblement de la part de quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous, Christiane
Taubira. Peut-être que José vous rêve, comme Olivier Faure, conduisant une liste européenne.
J'ai entendu ça, mais bon. Non, mais je vais additionner mes forces, je vais apporter ma part, dont la reconstruction de la gauche parce que je la souhaite, je la crois nécessaire à la société, je la crois nécessaire à l'Europe et au monde, donc je vais apporter ma contribution. Mais
pour les européennes ?
Pas de focalisation sur ma personne.
Elle rigole.
Vous ne changez pas, Madame Salamé. Vous avez raison, ne changez pas, Madame Salamé.
Merci, Christiane Taubira, d'avoir été ce matin l'invitée du grand entretien de France Inter. Je rappelle le titre.
Et sans rancune, monsieur.
Et sans rancune, le titre de votre livre. Baroque Sarabande, c'est chez Philippe Rey. Et ça sort aujourd'hui, je crois, Christiane Taubira. Merci beaucoup. À suivre Le Carrefour du 7-9, l'édito média, l'archive politique, la revue de presse.
Et l'humour avec Frédéric Becbédé.